Chapitre 6. Henry James avait décidé de partir sur les traces de l'insaisissable professeur Moriarty. Ces quelques heures sur le yacht de Don Cameron, pendant lesquelles il n'avait pas fermé l'œil, lui avaient permis de se convaincre que Moriarty et ses complices à la gare avaient en réalité recherché Holmes, ou peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas pas lui. Après tout, il n'y avait aucune raison pour que Moriarty le pourchasse. Il s'était persuadé qu'il s'agissait d'une coïncidence, et que rien ne le destinait à se trouver à la gare en même temps que le professeur diabolique. Rassuré, il se sentait de nouveau protégé par son anonymat, en tout cas en ce qui concernait le jeune Adler et son maître Moriarty. Il demanda au pilote de la vedette de l'attendre à quai, même jusqu'à une heure très tardive, puis il monta dans un trolleybus pour rejoindre le centre obscur de Chicago, où il prit la ligne de métro aérien. Il n'avait ni plan précis, ni arme, mais l'idée de rechercher Moriarty de nuit dans Chicago le remplissait d'une joie étrange. Une autre chose le rassurait. Ses chances de croiser une nouvelle fois par hasard le chemin de Moriarty étaient si minces qu'elles étaient quasiment inexistantes, à moins de se trouver dans un mauvais roman feuilleton. Le réseau de transport de Chicago par voie ferrée surélevée, déjà dénommé L à cette époque, n'avait été inauguré que l'année précédente, en 1892. Les premiers métros étaient composés de wagons en bois ouverts sur les côtés, ce qui exposait les voyageurs aux éléments, mais cet inconvénient était déjà réglé le jour où James emprunta la ligne du Lake Street Elevated Railroad. Il s'était procuré une carte du réseau à la première station qu'il avait trouvée et avait constaté que, à part la ligne du Chicago and South Side Rapid Transit Railroad, qui avait été étendue vers le sud pour desservir la 63e rue et Stony Island Avenue, à l'entrée du bâtiment des transports de l'Exposition universelle, les autres lignes s'arrêtaient avant le centre-ville. Lors de leur premier séjour à Chicago, Holmes lui avait expliqué que cette particularité était due à une loi de l'État de l'Illinois qui exigeait d'obtenir l'accord de tous les propriétaires de commerces et d'immeubles d'une avenue avant d'y poser des rails. James prit une ligne qui le menait vers le sud, mais il n'avait aucune intention de continuer jusqu'aux arrêts de Jackson Park et de l'Exposition, voulant éviter de tomber sur Holmes et les autres invités de Cameron. Bien entendu, Moriarty aurait pu se trouver aussi là-bas. Quoi qu'il en soit, James décida de sillonner la ville même de Chicago pour cette traque nocturne, la ville noire, comme il l'appelait intérieurement. Il descendit du L quelques rues avant la station de la 63e rue qui l'aurait ramené à l'Exposition et marcha au hasard. Il parcourut plusieurs centaines de mètres dans ce quartier mal éclairé avant de se rendre compte de trois choses. Premièrement, il n'y avait pas d'éclairage public dans ce secteur de la ville au trottoir pourtant plein de monde. Deuxièmement, il passait devant un nombre ahurissant de bars et de dancing d'où sortait une musique bruyante. Et troisièmement, il était la seule personne à la peau blanche depuis qu'il avait quitté la station. Comprenant avec une certaine inquiétude qu'il était par erreur descendu du train aérien dans le quartier noir de la ville, il avait entendu Holmes en parler en utilisant le terme d'Ebonyville, la ville d'ébène, James fit brusquement demi-tour pour retourner à la station et s'aperçut trop tard qu'il avait tourné plusieurs fois sans prêter attention à son trajet. Pas de passage de voie ferrée à l'horizon, pas de rail au carrefour qu'il traversait maintenant si rapidement qu'il n'était pas loin de courir. Soudain, un homme portant un costume à rayures plutôt voyant et une cravate de couleur vive et coiffé d'un élégant canotier se dressa devant lui. « Vous êtes perdu, monsieur? Je peux vous renseigner ?» James recula de trois pas mais parvint à répondre
« Seriez-vous assez bon pour m'indiquer où se trouve la station du L la plus proche sur la ligne de Lakeside ?»
L'homme sourit, découvrant de belles dents dont la blancheur contrastait avec la peau la plus noire que James eût jamais vue.
« Mais certainement, monsieur. »
Il tendit le bras dans la direction d'où venait James.
« Prenez la 3e rue à gauche et vous ne serez plus qu'à 200 mètres de l'arrêt. » « Je vous remercie. »
dit James qui se serait volontiers incliné bien bas pour le saluer tant il était soulagé. Mais alors qu'il revenait sur ses pas à travers les rues remplies d'une foule de gens de couleur qui semblaient fêter quelque chose, il ne résista pas à l'impulsion de se retourner pour voir si son sauveur le suivait, animé par de mauvaises intentions. L'homme au canotier n'avait pas bougé et, croisant son regard, lui adressa de nouveau son grand sourire et souleva son chapeau pour le saluer amicalement. Ce geste. Était-ce de l'insolence ? Se demanda James, qui eut aussitôt honte de cette pensée. En vérité, même si Henry James se félicitait d'être un véritable cosmopolite, certainement plus dégourdi que la plupart des Américains, et se targuait de se sentir chez lui aussi bien dans les rues de Londres, de Paris, de Florence, de Venise, de Rome, de Zurich, de Lucerne que de Berlin, il n'avait jamais eu de réel contact avec les Noirs, sauf dans les hôtels où il formait une partie du personnel.
Il retrouva, quoi qu'il en soit, les quais du L, un train arriva au bout d'à peine quelques minutes, et il repartit vers le nord. James passa encore une heure et demie à sillonner la périphérie de terminus en terminus, empruntant les trolleybus pour atteindre des quartiers comme ceux de Douglas Park, Garfield Park, Humboldt Park et Logan Square. Sa carte du réseau indiquait en petits caractères que la ligne aérienne du West Side ne serait pas terminée avant 2 ans. Ce changement de moyen de transport avait ses avantages. Les trolleys étaient plus confortables. Dans les quelques quartiers où l'éclairage public était suffisant et où les passants sur les trottoirs et dans les voitures à cheval étaient blancs, James descendait et marchait pendant quelques minutes, guettant le crâne chauve de Moriarty et son regard effrayant. Alors qu'il était dans l'un de ces quartiers populaires de l'ouest de la ville, il se rendit compte qu'il n'avait rien avalé depuis le déjeuner. À cette heure, certains cafés fermaient déjà, mais d'autres restaient très pleins. Il hésita à y entrer car il s'agissait d'une clientèle ouvrière comme l'attestaient les casquettes, gardées sur la tête même à table, les pantalons de velours ou de moleskine et les gros godillots. Il y avait quelques femmes dans ces bars, mais à en juger par l'excès de rouge à joues et de fards, sans parler des robes très déshabillées, James conclut qu'il s'agissait de belles de nuit. Il préféra finalement attendre d'être de retour au yacht et n'eut plus qu'à faire demi-tour pour rejoindre le dernier arrêt de trolley qu'il avait passé pour repartir dans l'autre sens. Au cours de ce trajet, James entreprit de tirer au clair une énigme qui n'avait rien à voir avec Sherlock Holmes, ni avec Lucas Nadler, ni avec le professeur Moriarty. Lors de son errance dans les transports publics, il avait vu au moins une douzaine de personnes qui lisaient le même livre. Les lecteurs étaient des hommes simplement vêtus, mauvais costumes en lainage, souliers usés mais bien cirés, chapeaux de paille pour certains, aucun n'ayant l'élégance du noir qu'il avait remis sur le droit chemin quelques heures plus tôt. Et ces hommes tenaient un livre devant leurs yeux, tout près, comme s'ils avaient mauvaise vue, alors qu'ils ne portaient pas de lunettes. D'autant plus étonnant qu'ils pouvaient se passer de longs moments sans qu'ils ne tournent de page. Le livre qu'ils collaient ainsi à leurs yeux, fatigué et parfois clos, devait être profondément soporifique, et c'était toujours le même. Son titre était « Maggie, fille des rues », et son mauvais brochage laissait supposer qu'il avait été édité sur les deniers personnels de l'auteur, un certain Johnson Smith. Enfin, à l'approche du terminus sud-ouest du trolleybus, James s'enhardit à aller s'asseoir face à l'un de ses lecteurs et tout sauta. L'homme ne baissa pas son livre.
« Veuillez m'excuser, » dit James,
faisant enfin réagir l'homme qui, de toute évidence, piquait du nez.
« Je ne voudrais pas vous importuner, mais j'ai remarqué que beaucoup de passagers lisaient le même livre que vous. Puis-je vous demander si vous savez pourquoi il a autant de succès à Chicago ?»
L'homme eut un grand sourire, exhibant une denture incomplète jaunie de nicotine, qui donnait à penser que le costume raide et mal taillé qu'il portait était le seul en sa possession.
« J'attendais justement que quelqu'un me pose la question, » répondit-il. « Je n'en ai pas lu une ligne. Pff !
On nous paye, moi et une vingtaine d'autres, simplement pour circuler dans le L et les trolleys de 7h du matin jusqu'à la fin du service à 1h du matin. Il paraît que le seul fait de nous voir le lire, ou de faire semblant de le lire, va donner envie aux gens de l'acheter. »
« Depuis combien de temps, vous et vos collègues, êtes-vous à la tâche ?»«
3 semaines. Et personne avant vous ne m'avait interrogé. J'ai peur que notre patron ne soit bientôt ruiné. Je vais vite devoir chercher un autre boulot. »«
Est-ce l'auteur, Monsieur Johnson Smith, qui vous paye pour assurer cette promotion ?»«
Oui, c'est l'auteur, mais ça n'est pas son vrai nom. C'est un jeune gars de pas plus de 21 ou 22 ans, aux semelles plus usées que les miennes. Stephen Crane. »
Eh bien, je trouve la méthode intéressante.
James se demandait si une telle campagne fonctionnerait pour ses propres livres dans les milieux londoniens plus instruits. Mais non, le monde littéraire ne se déplaçait pas dans les transports publics à Londres, sauf sur le réseau ferroviaire, et aucun londonien et aucune londonienne n'accepterait de parler à un inconnu. Cela ne se faisait tout simplement pas.
Je vais vous dire, reprit l'homme qui avait fermé le livre et l'avait posé sur ses genoux. J'ai déjà lu pas mal de bouquins. Mais celui-ci n'est même pas un vrai roman.
Comment cela ?
D'abord, il n'a que 40 pages, avec des grandes marges de chaque côté et des feuilles blanches au début et à la fin.
Une nouvelle qui se fait passer pour un roman ?
L'homme haussa les épaules.
Tout ce que je sais, c'est qu'il me reste encore 1 heure à tenir avec cette saleté devant le nez jusqu'au dernier trolley. J'ai hâte de retrouver mon lit. J'en peux plus. J'ai des crampes dans les bras, mais Crane nous surveille. On le voit pratiquement tous les jours et il ne plaisante pas. On sait passer le mot entre nous. Si on ne se colle pas le livre bien sur les yeux ou qu'il nous prend à dormir, on se fait lourder en moins de 2. Alors, par les temps qui courent où le travail se fait rare, on est bien content de se faire 2 $ par jour juste pour rester assis sur son derrière. »
James marqua sa compréhension d'un hochement de tête. Le trolley s'arrêta dans un quartier qui semblait peu recommandable, et le conducteur et le receveur descendirent pour se rincer le gosier. Le terminus, sans doute. James eut envie de faire quelques pas.
« Vous ne descendez pas là, j'espère, » dit le lecteur rémunéré. « Je remonte dans une seconde. »
Mais à l'instant où il mettait le pied dehors, il eut le regard attiré à 50 mètres par un mouvement sous le seul réverbère qui semblait encore fonctionner dans la rue. L'éclat d'un crâne chauve, une queue de pie noire et un haut col vieillot, le mouvement de main blanche et maigre d'étrangleur. Une vision furtive, aussitôt engloutie par la nuit. Oubliant le trolley, James se rua derrière cette apparition. Au-delà de la faible lueur du réverbère, il n'y avait que les ténèbres. Les baraquements et les taudis qui avaient formé la rue s'espacèrent tant qu'ils disparurent tout à fait au bout de quelques mètres. C'était comme si James avait poursuivi le professeur Moriarty à travers tout Chicago et qu'il en sortait avec lui pour se retrouver dans la prairie. Et puis James prit conscience d'une puissante odeur, et avec cela il eut l'impression, l'intuition atavique, que des centaines, si ce n'est des milliers de sabots massifs piétinaient la terre et que des milliers d'yeux l'observaient dans le noir. La rue se terminait sur une clôture, et assailli par cette puanteur suffocante, James distingua devant lui une grande masse noire, suante, soufflante et excrétante. Un troupeau. Il avait atteint les abattoirs de Chicago. Plus un seul éclairage, public ou privé, ne perçait la nuit. Au loin, dans les parcs à bestiaux pleins, brillaient 1 ou 2 lampes à gaz, mais elles étaient trop éloignées pour jeter la moindre lueur autour de James qui, dans ses îlots distants de relative clarté, distinguait l'étrange reflet noir de cornes. Il choisit d'aller vers la gauche et avança courageusement dans une obscurité agitée par le souffle du bétail. Il n'y avait plus sous ses pieds ni trottoir ni pavé, du gravier seulement, de la terre battue. Au moins, le sol n'était pas boueux ou pis, plein de la boue qui remplissait à coup sûr les enclos à bestiaux sur sa droite. Il entendait les frottements et les piétinements des vaches endormies bousculées par celles qui avançaient vers les mangeoires. James prit conscience qu'il allait beaucoup mieux. L'apathie et la colère qu'il avait minée toute la journée s'étaient envolées pendant son équipée dans les quartiers dangereux de Chicago. Il avait perdu le crâne chauve et les longs doigts blancs de Moriarty depuis qu'il était entré dans cette zone d'entrepôt délabré et d'immenses parcs à bestiaux, mais il n'en éprouvait aucune déception, ne s'étant pas vraiment attendu à trouver, et encore moins à affronter, le grand criminel. Il avait l'impression que son âme était sortie de son corps, qu'elle le survolait et l'observait, le voyant très bien alors qu'il faisait trop noir pour lire l'heure à une montre sans craquer une allumette. Avant cette équipée, il s'efforçait de s'imposer comme auteur dramatique, et voilà qu'il devenait à la fois acteur et spectateur, se regardant lui-même agir. Il improvisait, entièrement tourné vers l'action, un jeu à la fois physique et inspiré, audacieux même. Si c'est là, songea-t-il, ce que ressentent les personnages qui évoluent dans les feuilletons à 2 sous, cela me va. Il avait bien du mal à se rappeler pourquoi, quelques semaines plus tôt, il avait voulu se jeter dans la Seine. Parce que ses livres se vendaient mal? Vraiment? James eut envie de rire. Il avait beau en vouloir à Sherlock Holmes pour de multiples raisons, il comprenait soudain que le détective, que ce soit dans son incarnation réelle ou fictionnelle, avait été le sauveur de Henry James Jr. Par cette nuit étrange dans une ville inconnue, James se sentait plus jeune, plus fort, plus vivant. Il n'avait jamais ressenti cela, sauf dans son enfance peut-être, et même alors, il lui semblait que son entrain juvénile n'avait été qu'un pâle reflet de lune de la personnalité solaire et énergique de son frère William. Un dynamisme exaltant. C'était ainsi que James se formulait ce qu'il ressentait. Il était animé d'une faim nouvelle et revigorante, non seulement pour l'existence de tous les jours, mais aussi pour les péripéties d'une vie qu'il n'aurait jamais osé imaginer, et encore moins mener. Cette fois, il comprenait vraiment comment son frère Wilkie avait pu retourner au combat après avoir subi des blessures aussi graves et vécu des événements aussi tragiques, alors qu'il était transporté dans les dunes le lendemain de la bataille de Fort Wagner. L'un de ses 2 brancardiers avait reçu une balle dans la tête, si bien qu'une pluie de cervelle et de fragments d'eau avait aspergé Wilkie au moment où la civière tombait. Et pourtant, à peine guéri, il avait tenu à retourner à la guerre. De même pour leur frère Bob, qui avait pourtant perdu la moitié de son régiment lors d'une autre bataille. Un dynamisme exaltant. James comprenait maintenant pourquoi ces moments étaient la raison de vivre de Sherlock Holmes et pourquoi le détective recourait à l'usage de la cocaïne, de la morphine et de l'héroïne pour supporter les journées mornes et vides qui le détruisaient entre deux affaires, deux dangers. Qu'il ait bien vu Moriarty à la descente du trolley une demi-heure plus tôt ou non, James ne s'en préoccupait guère à cet instant. Il n'y pensait même plus. Il fut tiré de ses pensées par des mouvements. Des formes noires avançaient vers lui. Des silhouettes hautes marchaient le long de la longue barrière des enclos. Des hommes. Les yeux de James avaient amplement eu le temps de s'adapter à la vision nocturne, car aucune lumière ne brillait à l'arrière des entrepôts sur sa gauche, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Il vit donc parfaitement qu'il s'agissait de quatre hommes brandissant des matraques et des gourdins. Il s'arrêta. Levant sa canne élégante entre ses deux mains délicates, James regretta de ne pas avoir la canne épée de Holmes. Devait-il fuir ? Il rejeta cette idée, ayant plus peur d'être rattrapé par derrière comme un animal de rodéo lors d'une course-poursuite que de faire face à ces malfrats qui arrivaient vers lui si rapidement dans le noir. Il ne se faisait aucune illusion sur leurs intentions et ne se préoccupait pas de savoir s'ils travaillaient pour Moriarty, une considération totalement accessoire vu les circonstances. Ses assaillants s'étaient déployés en éventail et lui barraient la route à moins de 3 mètres. Et soudain, une voix éclata, venant d'une allée sombre à sa gauche.
« Vous, là-bas ! Arrêtez ! On ne bouge plus !»
On leva le volet d'une puissante lanterne sourde. Un faisceau de lumière jaillit et tomba sur Henry James, la canne levée au niveau de la poitrine en position défensive, et sur les quatre attaquants en vêtements peu ragoûtants. James ne s'était pas trompé en supposant qu'il portait des armes. C'étaient bien des gourdins, cloutés, souillés, de taille impressionnante.
« Pas un geste !»
tonna de nouveau la voix désincarnée. James avait déjà obéi à l'injonction et ne bougeait plus d'un pouce, alors que ses quatre assaillants faisaient tout le contraire. Ils avaient bondi comme un seul homme, deux d'entre eux sautant dans un enclos pour aller se perdre au milieu du bétail, les deux autres repartant en courant le long de la barrière pour se fondre dans les ténèbres. Le projecteur ne tenta pas longtemps de les suivre et revint sur James en l'aveuglant. Cette lumière approcha, tenue par l'homme qui avait crié tel un dieu du haut des cieux, puis fut enfin baissée. C'était un policier de Chicago. Il ne portait pas le beau costume de la garde colombienne constitué par Burnham pour veiller sur l'exposition, mais la veste à double rang de boutons cuivrés, le calot réglementaire, la grosse étoile épinglée du côté gauche. James avait devant lui un flic ordinaire, petit et gros, à l'œil méfiant et à la moustache luxuriante. Bien que soulagé par son intervention, James se rendit compte qu'il n'avait pas eu peur. Pas peur du tout. Pas même quand les quatre malfrats avaient été sur le point de l'agresser. Comment était-ce possible? Il ne se reconnaissait plus. Ce n'était pas le moment de se poser des questions. Sentant que le sourire béat qu'il adressait au policier suspicieux ne convenait pas à la situation, James s'efforça de reprendre l'air sérieux. Le faisceau de la lanterne réduit de moitié le balaya de haut en bas, passant de ses souliers noirs italiens de beau cuir à ses guêtres poussiéreuses, sa veste de bon faiseur, son gilet, son col, son foulard-cravate fixé par une épingle.
« Que faites-vous dans les abattoirs, monsieur ?»
s'enquit le policier d'une voix qui avait perdu toute vibration céleste.
« Ces hommes allez-vous dépouiller, de vos biens et probablement aussi de votre vie ?»
James lutta contre l'étrange envie qui le reprenait de sourire de toutes ses dents à cet extraordinaire représentant de l'ordre avec son magnifique accent irlandais, sa non moins magnifique moustache cirée et son encore plus magnifique matraque noire en bois qui, comme Holmes le lui avait appris, se nommait un Billy Club en Amérique. James voulut répondre, mais le maître de l'interminable phrase moderne ne parvint qu'à bafouiller quelques informations disjointes.
« visiter Chicago. Je suis descendu du métro aérien, puis les trolleys. Suis descendu pour marcher. Et puis soudain, il a fait tout noir. »
Persuadé qu'il avait affaire à un simple d'esprit, le policier lui parla de la voix lente et rassurante qu'on prend pour s'adresser aux petits-enfants.
« Oui, mais ça n'est pas un endroit pour vous, monsieur. »
James hocha la tête se rendant compte que son sourire niais revenait sur son visage. Il n'avait pas eu peur.
« Où logez-vous ? »
Il lui fallut quelques secondes pour comprendre la question du policier.
« Ah, oh !» Non, pas au Great Northern cette fois, non. Sur le yacht du sénateur, de Don Cameron.
Le policier n'eut pas l'air de le croire. James se fit la réflexion que l'Irlandais n'était pas laid, sauf le nez, très rouge, en forme de pomme de terre. Il se mordit les lèvres pour se retenir de rire.
Où est-il, ce yacht, monsieur ?
Amarré près de la grande jetée de la ville blanche.
Il maîtrisait de nouveau sans peine les noms communs, les verbes et la syntaxe. À dire vrai, il ne lui avait pas terriblement manqué. Il aurait accepté de les perdre pour conserver son euphorie.
« Votre nom, s'il vous plaît ?»«
Henry James Jr. »
répondit-il aussitôt. Puis il réfléchit à ce qu'il venait de dire et se dépêcha de corriger.
« Enfin, Henry James tout court maintenant. Mon père, Henry James Sr., est mort il y a 11 ans.
« Comment êtes-vous allé à terre depuis le yacht du sénateur ?»«
Par vedette à vapeur jusqu'au port principal. J'ai demandé au pilote de m'attendre. »
Le policier tourna sa lanterne vers une montre bon marché qu'il avait tirée de sa poche.
« Il est plus de minuit !»
James ne sut comment réagir à cette information. Il douta soudain que le pilote l'ait attendu aussi longtemps. Peut-être que ses amis le croyaient perdu, ou mort.
« Venez, monsieur James !»
dit le policier en lui enveloppant doucement les épaules avec le bras pour l'inciter à faire demi-tour vers l'allée sombre d'où il avait miraculeusement surgi.
« Je vais vous mettre dans un trolley qui vous ramènera. Les trolleys et le L cessent de rouler dans moins d'une heure, même un samedi soir. » Vous allez devoir rentrer directement et finir de visiter la ville une autre fois. »
Sans se formaliser de ce bras amical sur ses épaules, James retourna avec l'Irlandais sur des lieux mieux éclairés.